11h24, bienvenue dans Trudeau-Landry. Bon début de semaine à tout le monde. Jérôme Landry avec Jonathan Trudeau. Nicolas Lacroix qui est là aussi, bien sûr, avec nous pour toujours ses commentaires, toujours très, très appréciés. Pour nous faire part de vos commentaires, 25-226, je suis convaincu que les prochaines minutes vont vous faire énormément réagir. Ça, c'est notre numéro de texto. Et le 1-877-670-9330. Jonathan, notre prochain invité est très connu dans le monde des médias, chroniqueur, animateur au fil des années. Il s'est bâti une belle notoriété. C'est un personnage qui, je pense, on peut décrire comme étant controversé, qui est loin de faire l'unanimité au Québec, ça c'est clair, et qui est devenu en fin de semaine le nouveau chef du Parti conservateur du Québec avec 96% des appuis, succède à Adrien Pouliot. Il est au bout du fil, on va le saluer. Éric Duhaime qui est avec nous. Salut Éric.
Bonjour Jérôme.
Éric, félicitations, bravo. Je pense qu'on doit saluer ça, l'engagement politique de réussir à se faire élire par les membres, ça doit être salué. Maintenant, explique-nous où tu t'en vas avec ça, le Parti conservateur, le programme, comment tu vas bâtir ça. J'imagine que tu parleras pas juste d'extrémisme sanitaire, Éric, là.
J'espère que non. D'abord, la campagne, les 5 derniers mois ont été une expérience pour moi assez unique politiquement. On est passé de 700 membres au Parti conservateur du Québec à 14 000 membres. On a multiplié par 20 le membership en l'espace de 5 mois. On a maintenant plus de membres que la coalition Avenir Québec de François Legault. J'ai eu plus de votes samedi que Paul Saint-Pierre Plamondon au premier tour de la course au leadership du PQ. La DQ, ça nous a pris 10 ans à avoir 10 000 membres, juste pour vous donner une idée comment c'est dur vendre des cartes de membres. Fait qu'on a fait un travail qui était dans des circonstances pas faciles avec la pandémie, là, mais ça a été une grosse réussite. Maintenant, pourquoi c'est une réussite? Moi, je pense que parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de centre-droite au Québec, qui ont été extraordinairement déçus ces deux dernières années par la CAQ. Moi-même, j'ai voté pour François Legault à 3 reprises et je suis obligé de dire aujourd'hui qu'il n'a pas livré la marchandise. Je ne vois pas ce qu'il a fait pour les gens qui sont un peu plus à droite. Ça a été un gouvernement péquiste. Il a bouffé l'ADQ, mais il y a zéro ADN de l'ADQ dans ce parti-là. Et on le voit, la gestion de la crise sanitaire, je pense que ça met en relief les problèmes au Québec. C'est pas la gestion de crise comme telle uniquement. C'est l'approche qu'il a eue, puis ce que ça met en relief. T'sais, en campagne électorale, t'as raison, on parlera plus de la crise sanitaire, ouais, mais on va parler du système de santé en maudit, par exemple, parce que le système de santé nous a laissé tomber. Un système de santé, il est là pour sauver les gens, c'est pas les gens qui sont là pour sauver le système de santé. Et au Québec, si on a un bilan qui est encore pire, c'est peut-être aussi à cause de ça. Et l'ADQ, à l'époque, proposait un prix du privé en santé. La CAQ nous avait promis, François Legault nous avait promis qu'elle en mette si on fusionnait avec lui. On a fusionné avec lui, puis il nous a trahis.
Juger, Éric, sévèrement le système de santé, c'en est une chose. Prêter des intentions malsaines au gouvernement, nier l'existence d'une première vague, deuxième vague, troisième vague, etc., c'en est une autre. J'ai souvent eu la discussion avec Jérôme en ondes à savoir si tu pensais tout ce que tu disais. Jérôme dit, ça se peut pas, je le connais, Éric, c'est un gars tellement intelligent, je peux pas croire qu'il pense tout ce qu'il dit. Prenons morceau par morceau. Lorsqu'on parle de dictature sanitaire, est-ce qu'on pense vraiment qu'on est dans une dictature sanitaire au Québec?
Moi, j'ai pas parlé de dictature sanitaire, j'ai parlé d'extrémisme sanitaire. Pourquoi je dis que c'est de l'extrémisme sanitaire? C'est parce que je regarde les 60 États et provinces en Amérique du Nord, puis on est l'endroit, et de loin, en Amérique du Nord, qui a été le plus longtemps sous couvre-feu, où les salles à manger ont été le plus longtemps fermées, où le seul endroit où la construction a été fermée, le seul endroit où les usines ont été fermées, le seul endroit... C'est ça, de ça dont je parle. C'est objectif, là. On a été les plus extrêmes. Ça veut dire quelque chose de moins extrême.
Ouais, mais Eric,
on
est
les plus radicaux dans notre approche sanitaire.
Tu dois être d'accord.
Les résultats sont pas au rendez-vous. On n'a pas le meilleur bilan.
Éric, on vient de baisser ça, encore. On est à 1000 cas aujourd'hui, 1000 nouveaux cas. On était à 1500, 2000 il n'y a pas si longtemps. Puis il y a une réalité, tu sais, je regardais en Alberta, puis je sais que tu es proche de Jason Kenney, puis que tu vends souvent l'Alberta, puis souvent il a raison, mais tu sais, je regardais en Alberta encore 1516 nouveaux cas hier, là, tu sais, puis c'est une province qui est beaucoup moins populeuse que le Québec, tu sais, donc...
Mais avant-hier aussi, on avait 1500 cas, là, tu sais,
Mais oui, mais on n'a pas la même population, Éric, on n'a pas la même population qu'Alberta.
Jérôme, tu sais, présentement, là, faut comprendre que, regarde le bilan des morts, là, on a plus de morts per capita que l'Alberta, et beaucoup à part ça, là, plus que deux fois et demi que l'Alberta.
Ouais. Écoute, il y a une chose que je reproche, OK, Éric, à toi et à certains de ceux qui t'appuient, là. C'est que vous avez raison sur une chose. C'est de dire que le système de santé a échoué. Entre autres, on a vu ce qui s'est passé au printemps, là, dans les CHSLD, là. C'est inacceptable, ce qui s'est passé, là, Éric, OK? Mais le problème, c'est que tu sais très bien, comme moi, que le système, on le changera pas en 3 semaines. Puis on changera pas en 1 an non plus. Donc, en attendant, on n'a pas le choix d'y aller avec des mesures assez strictes
parce que,
pour protéger la capacité du système hospitalier. Tu le sais très bien,
Éric. François Legault nous avait dit qu'il allait le changer, puis il l'a pas changé.
Ben ouais, mais il est arrivé en 2018.
Il est là, là. Ouais. Mais ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Là. C'est pas, ouais. Ça fait pas 3 semaines. Là. Puis il nous avait dit qu'il mettrait du privé. Il a jamais prononcé ce mot-là depuis qu'il est au pouvoir. Il nous avait dit, rappelle-toi, même il s'est excusé en pleine pandémie parce qu'il avait promis d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, puis il l'a pas fait. Je veux dire, à un moment donné, on peut vouloir excuser les décisions du gouvernement, là, mais il faut aussi être imputable. Là. Puis le résultat au Québec, oui, ça a été un désastre à cause des CHSLD, t'as raison, mais qui aujourd'hui empêche qu'on ait une enquête publique indépendante?
Ah, mais ça en prend une.
T'en prends une, ça.
Ça s'en prend une, mais n'empêche qu'au mois de septembre, Éric, tu appelais dans une publication Facebook, à la fin de toutes les mesures, tu disais « plus jamais un confinement ». Moi, je me demande si on avait écouté Éric Duhaime et les autres avec qui tu collabores sur une base quasi hebdomadaire, là, il se serait passé quoi, là, la deuxième vague, la troisième vague, sans confinement, sans mesure de restriction, etc. Il se serait passé quoi?
Le premier ministre, d'abord, là, il a changé des choses aussi, il faut le dire. Là, il y a quand même des choses qui ont changé entre la première et la deuxième vague, parce que moi, justement, je disais que tu sais, l'industrie de la construction puis les usines, là, moi, je comprends pas encore qu'on ait pensé fermer ça. Là. Il y a des endroits où, d'ailleurs, dans le monde, même en Ontario, ce qu'ils ont fait, c'est le contraire. Ils permettaient justement plus de chantiers dehors, puis ils ont fait des travaux routiers parce que le monde était confiné, justement, puis c'était le temps de travailler. Puis la deuxième vague, on a confiné moins à cet égard-là. Il y avait aussi la concurrence déloyale qui était faite entre les grandes surfaces versus les petites. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Là. Fait qu'il y avait tout un paquet de mesures qui ont été prises, qu'il a fallu y apporter d'importants ajustements. Mais il y a des endroits ailleurs. Il ne faut pas penser que tout le monde a fait exactement comme au Québec. Là. C'est faux. Regardez les autres États nord-américains. Là. Comparez pas juste avec l'Europe. On peut comparer avec l'Europe aussi, parce qu'il y a des bons exemples.
Ouais.
Mais je veux dire, on a quand même été parmi les plus confineurs, puis on est loin d'avoir les meilleurs.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est ça qui ont fait encore plus que nous, puis aujourd'hui, ils se frenchent d'un pub.
Bon, mais attends une minute, là, c'est une île là, en milieu du Pacifique. Là, on n'est pas, nous autres, on vit pas comme ça. On est collés sur nos voisins.
Oui, mais Éric, les écoles qui sont restées ouvertes, tu penses quoi de ça? C'était pas le cas partout ailleurs. Aux États-Unis, les écoles ont été fermées, puis ici, mon enfant allait à l'école. J'étais content de ça, moi.
Pour moi, le plus triste, là, c'est justement qu'on ait confiné les enfants. Les enfants sont pas à risque, OK? On le sait, là, c'est 4 à 7 fois moins meurtrier que la grippe. C'est pas moi qui le dis, là, c'est les études scientifiques, l'Institut Pasteur en France.
Mais ils sont des vecteurs de transmission.
Ça non plus, il n'y a pas de consensus scientifique parce que, justement, leur charge virale est beaucoup moins forte et ils sont moins transmetteurs. Écoute, il y a même des charges virales qui peuvent être 1 million de fois moins fortes chez les jeunes que chez les personnes âgées. Donc, les enfants qui vont être ceux qui vont payer non seulement les dettes astronomiques de cette crise-là qu'elle va laisser, mais aussi de leur socialisation, de leur sport, de leurs études, de leur réussite scolaire. Ces enfants-là là, vont être de loin ceux qui vont payer le plus cher pour cette
crise-là. Ouais, mais tu sais qu'ailleurs, Éric, tu dis ça, là, puis t'as pas tort à 100%. Ce que t'oublies de dire, puis souvent, les gens qui t'entourent et toi, vous prenez une partie de la vérité puis vous laissez faire le reste. C'est que le Québec a moins fermé les écoles que le Massachusetts, par exemple. Donc, ce qu'on a vécu au Québec, c'est vrai que c'était pas l'idéal, mais ça a duré moins longtemps qu'à Boston, par exemple. Il faut que tu dises ça aussi, là.
Je peux te citer des exemples. Les écoles n'ont jamais fermé aussi, là.
Vas-y.
En Suède, c'est un exemple.
La Suède, Éric, arrête avec la Suède. Arrête, ils ont quasiment 10 000 cas quotidiens encore, la Suède. Arrêtez ça, là.
Ils ont combien de morts per capita? Ça se compare au Québec.
Ben oui, exactement ça. Mais le Québec, on l'a dit, il y a eu ce qui s'est passé en CHSLD, puis ça, t'as raison. Mais Éric, j'aimerais ça entendre ta solution. Là, la semaine passée, t'as sûrement suivi ça, là. 25-30% de délestage à Québec, OK, au CHU de Québec. Ça aurait été quoi, mettons, si t'avais été au pouvoir, comment t'aurais fait pour éviter cette situation-là? Parce que le délestage vient du fait que le système de santé est vulnérable, ça on le sait. Mais dans l'immédiat, Éric, avant qu'on fasse les réformes, comment on fait pour protéger un système de santé qui est obligé de délester de 25 à 30% des hospitalisations?
Explique-moi comment ça se fait qu'on fait du délestage alors qu'on a 150 personnes aux soins intensifs, là, dans l'ensemble du Québec,
Éric,
une population de 8 millions.
Éric,
non, mais parce qu'à un moment donné, là, Jérôme, il faut se remettre les deux yeux en arrière des trous.
Éric, il n'y a pas une capacité limitée, on a tous compris ça.
On envoie 50% de nos taxes, nos impôts au gouvernement du Québec là, en dépenses de programme,
Éric,
ils s'en vont en
c'est
santé.
Vrai ça.
Puis on a un système qui arrive 150
Éric,
personnes
Éric,
aux soins
Éric,
intensifs.
Éric, si on le sait, le système est fragile au Québec.
Arrête de
on le sait. Éric, le système est fragile, faut le réformer, je te le donne. Mais on fait quoi en attendant? On accepte le délestage? On laisse ça déborder? Qu'est-ce qu'on fait en attendant de réformer le système?
ben, on n'a pas le choix de soigner le monde. C'est sûr que le système, on n'a pas le choix de prendre les gens qui sont malades, c'est bien évident, là. Mais le délestage, présentement, là, ça s'explique pas, là. Dans un système normal, s'il y avait de la concurrence, s'il y avait une offre...
Je sais, Rick, mais ça changera pas en deux semaines.
On vivrait pas ça, présentement.
T'as raison.
Il faut regarder à moyen pas à long terme aussi. Faut pas arrêter d'avoir le nez collé.
Mais on n'a pas le choix avec le court terme. Faut soigner le monde qui sont malades, Eric. On n'a pas le choix de regarder le court terme puis d'essayer de protéger les hôpitaux.
Causes,
voyons
puis
donc.
Les conséquences, puis regardons ce qu'on peut faire.
Ben, d'accord, mais faut gérer l'immédiat aussi.
Mais moi, je veux bien qu'on fasse le procès du système et même qu'on parle de ce qui va se passer éventuellement, comment on pourrait le réformer, mais il reste qu'en ce moment, il y a une situation qui doit être gérée. Il y a des gens qui tiennent ce système-là à bout de bras. Puis Éric, je ne peux pas ne pas en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me poser la question. Je m'étais adressé à toi sur les médias sociaux il y a 4 mois de ça dans une espèce de lettre ouverte que je t'avais écrite qui a fait énormément réagir. Il y a des articles qui ont été écrits sur ce que je t'avais écrit. Et je te parlais de ma réalité, moi. Je m'étais ouvert sur le fait que j'ai une conjointe qui est dans le système de santé, qu'il y a des fonctions administratives qui gèrent la COVID depuis 13 mois, de l'impact que ça avait sur notre vie de famille, sur la santé psychologique même de ma blonde, sur à quel point c'était, même pour du monde, terrifiant de gérer ça et de voir les vagues arriver fois après fois et de craindre de pas être capable de se rendre jusqu'au bout. Et à quel point je trouvais ça rageant d'entendre des gens qui disaient « Ben voyons, le confinement, puis tout ça, ça sert à rien, des vagues artificielles et tout ça. » Ben t'as jamais répondu à ça,
J'ai beaucoup de sympathie pour la situation que vous avez vécue, puis la difficulté que ça a
créée. Et qui celle de milliers et de milliers de personnes.
Mais tu sais, un animateur bien payé d'une radio de Québec avec un médecin, il y a des gens qui ont vécu ça encore plus difficilement. Il y a des gens qui ont perdu leur business, il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui ont perdu leur job, il y a des gens qui ont vu leurs enfants décrocher de l'école. Je veux dire, puis ça, c'est des conséquences des mesures sanitaires. C'est pas juste la COVID.
Moi, je te parle de ceux qui essaient de gérer le système de santé. Je te parle de ceux qui gèrent le système et qui disent la situation depuis le début. Elle est critique, elle est problématique et que ça les frustre de voir des gens qui minimisent ça.
Mais moi, je te dis, c'est pas une question de minimiser ça. C'est que j'ai l'impression que c'est toi qui minimises l'impact des mesures sanitaires sur la vie du monde.
En tout, c'est pour ça que je veux que ça arrête au plus sacré, Éric.
Ben c'est justement, mais on peut pas arrêter ça d'un coup de baguette magique. Puis c'est pas nécessairement avec ces mesures-là que ça va arrêter.
Ben avec lesquelles, Éric? Avec lesquelles? Le délestage, je reviens à ça. Tu règles ça comment, toi? Dans l'immédiat, le délestage, c'est pas avec des mesures.
Si ça fonctionnait, le confinement puis le couvre-feu, on le saurait. On
serait meilleur. Éric, ça vient de baisser. Mais Éric, explique-moi là. Le délestage, tu règles ça comment? Si c'est pas avec des mesures dans l'immédiat.
Tu décentralises le système puis t'offres une alternative. Tu vas
dans l'immédiat, Éric, t'as raison, mais dans l'immédiat, cette semaine, la semaine prochaine, tu règles ça comment si c'est pas avec des mesures?
Mais c'est parce que en quoi le couvre-feu? Je pense que le couvre-feu a un impact sur le délestage.
OK, ben, regarde, Éric, je vais essayer de mettre un petit peu de science dans la patente, parce que là, on est trop à s'obstiner. Là. Il y a quelques minutes de ça, on avait une sommité mondiale, Yanis Benamor, qui est membre du groupe de travail sur la COVID-19 pour la revue médicale de Lancet. Il est professeur à l'Université Columbia à New York. Je veux te faire entendre un extrait où il nous a parlé d'un exemple probant en Europe en comparant l'Angleterre et la France.
On écoute. En décembre, vous aviez plus ou moins une explosion pandémique en France et en Angleterre. L'Angleterre a complètement fermé. Il y a évidemment eu l'urgence à cause d'un variant que l'on a appelé le variant anglais. Et l'Angleterre a décidé de fermer toute son économie. En France, ils ont décidé de ne pas faire ça pour protéger l'économie, la santé mentale. Et ils n'ont mis en place que des couvre-feux. Regardez où nous sommes, le 19 avril 2021. L'économie anglaise est en réouverture. Depuis une semaine, et ils profitent de la réouverture des bars à l'extérieur, des restaurants à l'extérieur. La France reste fermée.
Est-ce que le professeur Benamor est un charlatan, un menteur, un incompétent? Comment on réagit à ça quand il donne exemples très, très clairs? L'Angleterre, très stricte. France, moins stricte. L'Angleterre, son impôt en ce moment. La France, couvre-feu 18 heures.
Mais la France a quand même eu des mesures assez strictes, il faut le rappeler. Là. Mais je pourrais prendre d'autres... C'est parce que, tu sais, chaque tout le monde pourrait prendre tous des exemples.
Non, mais je veux savoir si lui se trompe. Je veux savoir si lui se trompe, Éric.
Écoute, je connais pas l'exemple de la France par rapport à l'Angleterre, mais tu sais, j'ai vu des exemples du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, de la Floride, de la Californie. Vous connaissez les exemples plus proches de nous, là. T'sais, je veux dire, il y a personne présentement qui a le monopole de la vérité dans ce débat-là, puis il y a un débat scientifique justement à cause de ça. Donc, il faut juste être conscient que le discours unique, là, c'est un des problèmes au Québec actuellement, là,
ouais.
C'est que dès qu'on pense pas comme le premier ministre puis comme le gouvernement, là, on se fait traiter de tous
les noms. Oui, mais c'est parce qu'il y a des faits, Éric. Toujours une question d'opinion, Éric. C'est parce qu'il y a des faits aussi qui sont pas reliés à des opinions. C'est une maladie sérieuse. C'est pas une pandémie politique. C'est une vraie pandémie, tu sais. Donc, il faut trouver des solutions. Mais je veux t'entendre sur un autre aspect bien important là-dedans, Éric, là, parce que le temps file, là. C'est la vaccination. Est-ce que tu vas te faire vacciner quand ton tour va arriver?
Je suis pas encore dans les groupes d'âge qui sont ciblés. Mm-hmm. Je vais possiblement me faire vacciner en fonction de qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là. Je ne sais pas si l'AstraZeneca va s'appliquer à nous ou pas. Là. Mais je sais pourquoi tu m'amènes sur ce terrain-là, parce que moi, je suis un partisan du libre choix.
Oui.
Moi, personnellement, je vais me faire vacciner, mais je ne veux pas qu'on oblige les gens à se faire vacciner. Je veux pas qu'on oblige les gens à avoir un passeport vaccinal puis qu'il y ait deux classes de citoyens, qu'il y ait des citoyens de seconde zone parce qu'ils sont pas vaccinés. Je pense que c'est un choix personnel.
Mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Beauce? Il y avait 5000 doses d'AstraZeneca disponibles en fin de semaine. On a juste pris, il me semble qu'on n'a pas les moyens de laisser des doses de vaccins sur la table comme ça, Éric, là.
Non, mais ça, là, c'est aussi la gestion du système de santé que tu défendais tantôt qui est responsable de ça.
Non, les gens, ils vont
pas personne qui a défendu le système de santé.
Les doses sont là, là. Les gens, ils vont pas les prendre, là. Il faut arrêter aussi.
Non, mais attendez, là. Aux États-Unis, vous voyez comment ça fonctionne, là. Ils sont dans les pharmacies, puis le monde court dans les centres d'achat, dans les allées du centre d'achat pour vacciner le monde. Peu importe l'âge, peu importe l'âge. Nous, ici, on a mis vraiment des règles très strictes, très bureaucratiques, très centralisées. Toutes les décisions partent d'en haut. Et là, on arrive dans les régions. Puis là, il y a certaines personnes avec des rendez-vous. Puis là, la personne se présente pour rendez-vous. Puis on est fourré parce qu'on a fait des congés. Des doses. Fait que encore une fois, c'est une gestion technocratique puis bureaucratique qui est le problème. Si tu disais, là, n'importe qui peut venir se faire vacciner parce qu'on a trop de doses, si tu peux être sûr qu'il y a du monde qui fera la file là, pour aller se faire vacciner.
Est-ce que tu invites les gens à aller se faire vacciner massivement? Est-ce que tu dis aux gens, vous avez le choix, mais moi, je vous dis, plus on va se faire vacciner, plus on va être nombreux à le faire, plus vite on va sortir de ça. Donc, allez-y. Est-ce que tu es capable de passer ce message-là?
S'ils veulent se faire vacciner, allez-y. Là, j'ai pas de problème avec
Est-ce que tu les invites à le faire?
Respecte ceux Ben moi le gars c'est un choix personnel, c'est pas moi qui va décider pour eux, c'est ça que mon message. Moi je pense que puis à partir d'un certain pourcentage de toute façon on va avoir l'immunité collective.
Mais pourquoi c'est difficile d'inviter les gens à se faire vacciner? On pourrait au moins s'entendre là-dessus, dire hey gang, ben, faites-vous vacciner.
On peut leur recommander. Attends une minute là, il y a une différence entre recommander puis dire au monde allez vous faire vacciner là. Puis la nuance est très importante puis moi je la fais.
Ouais. Ton analyse du dossier du méga gym, Éric. On t'a vu dans des entrevues. Tu l'as même reçu ici sur les ondes du 93 à Québec.
93, oui.
Dan Marino. Comment tu... Il y a un mort quand même, plus de 500 cas reliés à ça. 50 éclosions. As-tu des regrets par rapport à ça? As-tu des regrets d'avoir peut-être encouragé les gens à aller s'entraîner là? Comment t'analyses cette situation-là qui nous coûte cher actuellement à Québec? Là?
D'abord, l'entraînement puis l'exercice, là, puis... Je pense que c'est Lancet aussi qui a fait une étude là-dessus cette semaine qui disait que l'exercice physique, c'était peut-être la meilleure façon de se
préparer. Ben, ça n'a pas marché au méga gym, Éric. Ça n'a pas marché au méga gym, là.
Mais de façon générale, là, faire du sport, c'était une bonne idée, là. Là, est-ce qu'il y a eu des règles sanitaires qui n'ont pas été appliquées? Y a-t-il des problèmes avec le système de ventilation? La personne qui est décédée, pourquoi on l'a laissé partir deux jours avant?
C'est un militant, Dan Marino, tu le sais, là, qui est militant, là. C'est un gars qui était militant.
Mais
faux diplôme, bon. T'as vu ça en fin de semaine, là, les faux diplômes pour rester ouverts, etc. Qu'est-ce que tu penses d'une attitude comme ça, d'un manque de collaboration? Puis d'un côté militant de pandémie, tu sais, c'est quelqu'un qui était dans le complot par-dessus la tête. On peut pas encourager ça, Éric, là.
C'est sûr que c'est déplorable si les mesures sanitaires n'ont pas été respectées, s'il n'y a pas eu de lavage de mains, s'il n'y a pas eu de distanciation, tout ça. Mais ce que je trouve bizarre, là, c'est que on s'acharne là-dessus depuis des jours et des jours. Mais la semaine passée, je ne sais pas si vous en avez parlé en ondes, mais l'Institut économique de Montréal a publié une étude où on disait qu'il y a eu 6700 morts qui auraient pu être évitées en CHSLD au Québec.
Ben oui, si on le sait.
On n'avait juste pas pris la décision de transférer des hôpitaux au CHSLD. Puis ça, bizarrement, là, il n'y a même pas d'enquête, il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent.
Ouais, mais ça, on est bien d'accord avec ça. Mais la situation du méga gym, c'est normal qu'on en parle, là, avec 500 cas, un mort, le propriétaire aux soins intensifs. Tu peux pas dire que c'est anecdotique, Éric, ce qui s'est passé là.
Non, c'est pas anecdotique, mais il y en a d'autres cas. Il y avait eu le karaoké, rappelle-toi, un petit peu plus tôt, il y a quelques mois. Il y a eu une coiffeuse à Thetford Mines aussi, qui avait été pointée du doigt par le ministre Dubé, puis que c'était pas vrai, là. Puis il y a pas eu de cas à Montréal. Pourtant, il y a eu beaucoup plus de cas de façon générale, puis beaucoup plus d'éclosions dans la région de Montréal. Mais on n'a jamais blâmé un commerce ou un individu en particulier, là. J'ai pas dit que c'était pas si grave.
Non, mais c'est bon, on est beaucoup en train de relativiser. Je veux qu'on parle, parce que le temps avance, comme Jérôme disait, du ton aussi, Éric, des messages. qui sont ça frôle la violence. Souvent, c'est les menaces et tout ça. Et je sais pas, c'est peut-être un hasard, mais souvent quand on regarde, bon, qui ces gens-là suivent sur Facebook et tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans tes followers. Je suis certain que tu reçois pas beaucoup d'insultes de gens qui ont le logo de Trudeau Landry là sur leur page Facebook. Est-ce qu'on n'a pas tous une responsabilité des fois de faire un appel au calme, de dire aux gens on peut débattre, mais les propos injurieux, les menaces et tout ça, est-ce que tu reconnais qu'il y a certains dérapages et qu'on devrait appeler les gens à être un peu plus raisonnés dans leur façon de débattre?
Absolument, puis je le fais régulièrement.
Éric, sais-tu ce qui me déçoit aussi de ta position puis de la position de tes fans? C'est que je me souviens encore quand on était au réseau Liberté Québec, là, on prônait la responsabilité individuelle.
Oui.
Et là, t'as tendance à tout mettre sur le dos du gouvernement. T'as participé, t'as organisé même des manifs anti-masques. Il est rendu où ton côté où tu prônes la responsabilité individuelle?
Quand tu parles de responsabilité, là, Jérôme, oui. T'as une responsabilité d'informer les gens aussi. Là.
Ben oui.
Quand tu dis manifestation anti-masque, c'est faux. Ah, j'ai organisé des manifestations contre le port du masque obligatoire dans une école. Je suis pas contre le masque, là. Je le porte mon masque. Là. C'est pas... Tu vois comment c'est pervers. Là. Fait que c'est facile d'accuser les autres de mentir et de torcier, de
torcer. Sauf que tu sais très bien comment c'est récupéré quand tu organises une manifestation comme
oui,
ça par certains qui sont là.
Tu sais très bien quand tu dis anti-masque plutôt que contre le masque obligatoire des enfants, tu sais très bien aussi ce que tu fais.
Est-ce que les anti-masques t'ont aidé à te faire élire au sein du Parti conservateur? Est-ce que ça a gonflé ta base un peu sur ton Facebook,
les anti-masques? On va te parler franchement.
Vas-y, Éric.
Moi, là, la dernière fois là, que il y a eu un sondage qui a été publié pour les radios à Québec, là, j'étais dans le siège où vous êtes aujourd'hui, là.
Oui.
Puis j'étais en avant de Radio X, ça allait très bien mes affaires, puis les auditeurs étaient au rendez-vous, OK?
Mm-hmm.
Ces gens-là, là, c'est pas tous des crétins, OK?
Mm-hmm.
Puis je peux te dire que l'écrasante majorité était d'accord avec mes visions sur la première vague, parce que j'étais là pour la première vague au complet.
Écrasante majorité, moi aussi.
Puis je pense pas que ces gens-là, c'est tous des crétins. Je pense pas que c'est des coucous, c'est tous des complotistes.
Mais la responsabilité individuelle de chacun, Éric, au-delà du gouvernement puis du système de santé, de limiter la propagation, tu la décris comment tu la vois?
Je suis celui qui fait la promotion de la liberté, de la responsabilité individuelle. C'est ce que je déplore qu'on ne fait pas dans la gestion de crise actuelle. Moi, j'aurais voulu un gouvernement qui me parle comme un adulte responsable, pas comme un enfant puis qui me menace puis qui me dise qu'il va me donner 1500$ si j'écoute pas Papa Legault. Et moi, je veux qu'on dise qu'on responsabilise les gens. Moi, j'ai confiance que tu dis aux gens, tu vas voir ta grand-mère, tu vas pouvoir la tuer, puis tu veux pas ça, c'est ta confiance. Fait, regarde, tu peux faire ce que tu veux, mais je t'avertis, voici ce qui est dangereux, voici ce qu'il faut pas que tu fasses. Je peux te dire qu'il y en a un paquet qui aura annulé leur rendez-vous avec leur grand-mère spontanément, puis il y en aurait peut-être moins eu même de rassemblement. Faut faire confiance aux gens, puis je trouve que le gouvernement, c'est peut-être la différence philosophique entre toi et moi, le gouvernement fait pas confiance aux gens, pense que c'est mieux que c'est eux qui décident. Puis que
parce
que
quand on donne du lousse, Éric, les corps montent. C'est ça le problème, je suis bien d'accord avec toi, mais quand on a donné du lousse, les corps montent automatiquement. C'est ça qui est plate. C'est ça qui me déçoit, puis c'est ça qui est dur à encaisser, Éric. Quand on redonne du lousse, les corps montent, quand on enlève, les corps baissent.
Bien, on pourrait dire le contraire. À partir, tu sais, on n'avait pas le masque obligatoire l'été passé, puis ça allait bien. Puis quand ils ont mis le masque obligatoire au milieu de l'été, ça a commencé à remonter. Je veux dire, c'est un virus, là, c'est plus intelligent que les politiques publiques.
Éric, dernière question, parce que le temps file, tu sais comment ça marche en radio. Dans quel comté tu vas te présenter à Québec à l'élection?
Bien, je vais me présenter dans une circonscription où je vais gagner. Ça, c'est mon premier critère.
Fait que tu penses gagner dans Chauveau?
j'ai honnêtement pas choisi encore la circonscription. Puis j'ai beaucoup de travail à faire avant de décider ça. Tu comprends que quand tu viens d'être élu chef, tu as d'autres choses à mettre en place. Faut mettre en place des associations de comté. Faut que tous ceux et celles qui veulent militer puissent se trouver un espace. Faut répondre aux demandes des médias comme je fais aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire dans les médias. Donc, je vais travailler. Il nous reste encore 17 mois de travail. Puis j'ai confiance que ça va très bien aller.
Est-ce que Chauveau est dans ta shortlist des comtés à Québec?
Pour être très honnête, c'est une des trois circonscriptions où je pourrais être candidat.
Les autres, c'est sur la rive sud?
Une, c'est la rive sud.
OK. Merci, Éric.
Ça en dit pas plus.
Bonne chance, Éric.
Merci, bye.
Salut, bye. Éric Duhaime, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. C'est le fun d'échanger. Il y a un bout sur lequel il m'a pas convaincu. C'est le bout sur comment régler le délestage.
Il y a plein de bouts sur lesquels il m'a pas convaincu.
Oui, il y en a d'autres. J'imagine, Joe, là, je te connais, puis c'est bien correct comme ça aussi. Mais des solutions... à court terme pour le délestage, et là, la faille dans leur discours à ces gens-là. Parce que moi, je pense que oui, il faut le réformer le système de santé, mais il sera pas réformé la semaine prochaine. Tout le monde pense ça, t'as raison, Nico.
Tout le monde pense ça. Mais moi, ce que j'espère entendre d'Éric un moment donné, c'est nous vendre d'autres choses que de l'outrage concernant la COVID.
C'est
parce
ça.
Que dans 17 mois, ça va nous sembler loin.
Exactement, exactement. Puis ça prend des solutions là pour soigner le monde là. Puis la faille dans le discours d'Éric puis de sa gang, c'est là qu'elle est la faille. OK, on doit s'arrêter 11h48, 25 226 pour réagir. On vient.